Journal Fulbert Balouagui.
Six candidats présidents de la République ont l'intention de porter plainte contre le président de la CENI pour des irrégularités notoires et intentionnelles sur la fiabilité du fichier électoral, la publication des listes d'électeurs et autres faits. Leur intention vise aussi le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Au sud Kivu, des fortes pluies qui se sont abattues sur la ville d'Uvira ont provoqué de nouveaux dégâts parmi lesquels la menace d'écroulement du pont Kalimabenge sur la route nationale numéro 5. L'invité du journal est Mamadou Mbalo, chargé des programmes de réformes foncières pour les comptes de l'ONU Habitat en RDC. Présent à la conférence sur la gouvernance foncière durable en Afrique à Addis Abeba, il nous parle des avancées significatives en matière de réformes foncières en RDC, malgré de nombreux défis à relever. Madame, Monsieur, bonjour. Six candidats présidents de la République ont l'intention de porter plainte contre le président de la CENI pour des irrégularités notoires et intentionnelles sur la fiabilité du fichier électoral, la publication des listes des électeurs, la cartographie ainsi que la délivrance de duplicata. Dans une déclaration commune faite à la presse hier jeudi à Kinshasa, Denis Mukwege, Nkema Lilo, Théodore Ngoï, Floribert Anzoluni, Jean-Claude Baende et Martin Fayoulou se proposent de déposer une plainte au parquet général près la Cour de cassation contre le président de la CENI et le ministre de l'Intérieur. Ils affirment que Denis Kadima peut être poursuivi pour faux en écriture car les chiffres des électeurs annoncés par la CENI sont différents des chiffres réels après leur vérification. Quant à Peter Kazadi, il l'accuse de ne pas protéger les candidats président de la République conformément à la loi. On écoute Théodore Ngoï au micro de Grâce Amzati.
Nous allons aux élections sans connaître le nombre, les chiffres réels des électeurs. Donc, il y a un faux qui est délibéré. Comme vous le savez, 80% des cartes d'électeurs sont illisibles. La loi aussi prévoit que les candidats ont droit à une égale protection par les pouvoirs publics. Ils doivent être protégés pendant la campagne. Ils ont droit à 25 policiers à charge du trésor. Jusqu'à aujourd'hui, M. Peter Kazadi s'est abstenu d'exécuter cette disposition importante. Nous protégeons nous-mêmes. Nous voulons que le procureur général, près la Cour de cassation, entende en flagrance, parce que les faits sont flagrants. Donc, on peut bien placer M. Kadima en détention préventive et M. Peter Kazadi en détention préventive, les entendre sans désemparer, les traduire devant les juges compétents et leur ordonner de corriger les processus. Ce que nous voulons, c'est que les processus soient corrigés. Nous ne pouvons pas aller aux élections sans connaître nos électeurs. Nous allons aller aux élections pour participer ou, si vous voulez, cautionner un simulacre qui va aboutir au statu quo, c'est-à-dire à la reconduction du président de la République sortant ou sinon à la désignation de quelqu'un qui aurait un accord tacite avec lui.
Et l'un de ces six candidats, Floribert Anzoluni, président de Alternance Citoyenne et le premier candidat président de la République, à être arrivé à Uvira au sud Kivu. Il y est depuis hier jeudi en passant par Bujumbura, la capitale économique du Burundi. Aussitôt accueilli à la frontière de Kamvimvira par ses partisans, Floribert Anzoluni s'est directement mis au travail pour peaufiner son programme qui, dans la suite de sa campagne électorale, prévoit l'organisation des tribunes d'expression populaire à Baraka, Fizi, centre Uvira, Goma, Beni Lubero et Bukavu. On écoute Floribert Anzoluni dans ses propos recueillis par Fiston Goma.
Nous d'abord, c'est très important. Pourquoi nous utilisons l'expression de tribune populaire? C'est très important. Nous n'allons pas simplement en meeting. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à une espèce de course, finalement, au nombre de personnes qu'on mobilise. Généralement, nous connaissons les conditions dans lesquelles ces mobilisations sont effectuées. Alors que cela, en réalité, ne représente pas véritablement, je pense même, la réalité des attentes de la population. Donc nous allons dans des tribunes populaires pour échanger avec les Congolais. Nous allons écouter les Congolais, nous allons partager notre vision avec les Congolais et à la fin nous voulons vraiment avoir ce qu'on appelle un débat constructif qui nous permet d'une part nous de présenter ce que nous avons comme projet mais aussi d'écouter et d'enrichir notre projet avec les réalités des populations. Donc c'est comme ça que nous allons fonctionner, partout où nous allons aller débattre avec les Congolais. C'est comme ça qu'on m'a surnommé d'ailleurs de manière assez comique Colo Débat parce que notre mouvement, notre dynamique est pour les débats avec la population.
Pas de RDC sans le Nord Kivu, on ne doit pas céder même un centimètre de notre territoire. Je viens trouver une solution à la question du M23. C'est entre autres des messages adressés par Moïse Katumbi ce jeudi à la population de Goma. Arrivé à Goma en début d'après-midi, en provenance de l'Ituri, ce candidat à la présidentielle est accompagné de ses alliés Matata Mponyo, Franck Diongo et Seth Kikuni. Les points avec Sifa Maguru.
Dans son adresse au stade Afia au quartier des Volcans, le candidat numéro 3 Moïse Katumbi s'est appesanti sur la crise sécuritaire qu'il a qualifiée comme un problème épineux aux conséquences humanitaires indescriptibles pour les 2 millions de déplacés qui ont fui depuis 2 ans pour la plupart et qui sont dans de mauvaises conditions, poursuit-il. Au sujet du processus électoral, Moïse Katumbi a recommandé à la population la vigilance le jour du vote. On ne peut pas quitter les bureaux de vote sans compter les voix. On ne peut pas voler les voix de Moïse Katumbi, a-t-il martelé. Une fois élu, Moïse Katumbi promet de tout mettre en œuvre pour l'instauration de la paix au Nord Kivu. Moïse Katumbi a également rendu hommage à tous les fils et filles congolais qui sont tombés à cause de cette guerre, tout en compatissant avec la population pendant cette période de l'état de siège. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
De son côté, le candidat Félix Antoine Tshisekedi est arrivé hier jeudi à Kindu dans le cadre de sa campagne électorale. Il s'est adressé à la population à la tribune centrale de Kindu, leur demandant de lui accorder un deuxième mandat pour finir ce qu'il a commencé. Il a par ailleurs affirmé que son premier objectif, et s'il est réélu, sera la situation sécuritaire. Florence Kizalunga, reportage.
Dans son adresse, le candidat numéro 20 à la présidentielle a commencé par demander pardon à la population pour n'avoir pas visité les maniements durant son mandat. Néanmoins, ses œuvres l'ont précédé, a-t-il précisé. Parlant de la situation sécuritaire du Maniema, le président sortant s'est félicité de la paix observée ces derniers temps dans le territoire des Kabambare. Pour lui, la sécurité est son premier objectif et s'il est réélu. Et pour cela, il faut renforcer l'armée congolaise. D'où, il invite le jeune du Maniema à adhérer massivement à l'armée. S'agissant du volet économique, il a parlé du programme de développement des 145 territoires comme étant son deuxième objectif. Parlant de la relance de la SNCC, il a annoncé aux habitants du Maniema les projets signés entre Tanzanie, Burundi et la RDC pour la construction des rails depuis la Tanzanie jusqu'à Kindu en passant par le Burundi et la ville d'Uvira. Quant à l'agriculture, les candidats à sa propre succession, Félix Tshisekedi, a promis de faire de son mieux pour encadrer les petits agriculteurs pour qu'ils arrivent à nourrir les Congos. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Et puis, dans le cadre de son nouveau programme qui donne la parole aux différents candidats à la présidentielle du 20 décembre 2023, ce matin, Radio Kapi reçoit le candidat Théodore Ngoï, candidat numéro 17. Il articule son combat autour du respect des règles qui va, selon lui, traverser toutes les actions qu'il va entreprendre. Il se présente à cette élection pour aussi notamment rompre avec les injustices. On l'écoute au micro de Kélin Kouté et Michel Kifindangoï.
Notre promotion collective passe par le respect des règles. Et ces règles-là concernent non seulement le respect du patrimoine commun, le respect et la protection de nos frontières, le respect et la protection de droits et libertés de chacun, mais aussi le respect de l'autorité. Et je suis l'homme qui, ayant la compétence, je suis docteur en droit, professeur d'université, professeur ordinaire, la compétence technique, compétence intellectuelle, mais aussi la compétence morale. Ma condition, c'est que je ne peux exercer une fonction que si je dois réaliser les objectifs de justice. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt de la société qui ne soit pas la justice. Alors, puisque je ne peux exercer ces fonctions que dans le respect des règles de droit, la justice, il faut que moi-même je sois président de la République pour commencer par cultiver l'esprit du respect des règles qui va traverser, n'est-ce pas, toutes les actions que nous allons entreprendre jusqu'à la fin du premier mandat et les gens verront les résultats.
L'intégralité de cet entretien est à suivre à 8h30, 15h30 et 20h30 sur Radio Okapi et sur toutes nos plateformes digitales. La campagne électorale impacte positivement sur les activités entrepreneuriales dans la ville de Bukavu au sud Kivu. Les affaires tournent en faveur des entrepreneurs impliqués dans les activités de location des matériels de sonorisation. La forte demande défavorise les candidats moins nantis à se procurer facilement les matériels de sonorisation pour mener à bien leur campagne. Jean Kassami a constaté cet état de choses en faisant le tour de la ville de Bukavu. Il nous propose ses reportages.
La campagne électorale constitue un gain pour certains entrepreneurs de Bukavu. Baguma Mweze, connu sous le sobriquet de Master Z, entreprend dans le domaine de la sonorisation. Les candidats défilent régulièrement à son bureau pour solliciter la location du matériel. des baffles, des mixeurs et des générateurs. Les prix se négocient de gré à gré. Une stratégie qui permet à l'opérateur de dissocier les candidats nantis des autres.
Il n'y a pas les tarifs. Si quelqu'un vient, il faut que nous convenions les prix parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Les anciens ont déjà beaucoup d'argent. Beaucoup sont des voleurs. Il y a les autres qui ont des capacités, mais n'ont pas l'argent.
Si pour certains candidats, les prix du matériel pour leur visibilité importent peu, d'autres crient à l'inégalité des rapports de force. Bibiche Masoka, candidate à la députation nationale ville de Bukavu.
Il y a des nantis parmi nous qui ont la facilité d'accéder à ces éléments de sonorisation. Le prix est exorbitant puisque la demande est trop élevée.
Les écrans géants installés dans des coins stratégiques de la ville par des particuliers attirent aussi les candidats, chacun selon ses propres moyens. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, au sud Kivu, des fortes pluies qui se sont abattues hier sur la ville d'Uvira ont provoqué de nouveaux dégâts parmi lesquels la menace d'écroulement du pont Kalima-Bengé, un trou béant occasionné par les eaux stagnantes des pluies s'est créé au milieu de ces ponts. Une autre partie de la semelle du pont s'est affaissée, rendant le trafic très difficile à cet endroit de la route nationale numéro 5. Les habitants attendent le démarrage des travaux des bitumages sur l'artère principale après le passage du ministre national des infrastructures et travaux publics à Uvira. Les points avec Fiston Goma.
Ils sont nombreux, les habitants qui souhaitent voir les travaux de remblai en cours finir par le bitumage tel que promis récemment par le ministre d'État Alexis Guissard à Uvira. On pouvait observer ces habitants assister impuissants ce jeudi matin et sous une pluie fine à la menace de destruction du pont Kalima-Bengé après de fortes pluies survenues ces jours-ci. Mercredi, l'équipe de l'entreprise du groupe EIS ECA, qui avait gagné le marché du projet de bitumage de l'artère principale de la ville d'Uvira, a rencontré le maire de la ville. Cette équipe était munie d'une autorisation de procéder au lancement de ces projets sur l'axe Kalundu et le rond-point Kavivira. Le chef de ces projets, Marc Urguerignangé.
En fait, la construction d'une route, il y a la chaussée, il y a les ouvrages d'art, il y a les ponts, il y a les caniveaux, donc le drainage. Tout est inclus, il y a des ponts à refaire, il y a des ponts à réhabiliter. Tout sera fait dans le cadre de ces travaux et selon les dimensionnements requis. Nous avons déjà signé le contrat avec le gouvernement congolais.
Les ponts Kalima-Bengé sur la RN5 risquent de céder et séparer la partie sud de la ville du centre commercial de Mulongo si rien n'est fait dans l'urgence. D'Uvira Fistongo Mayaba, la Radio Kapi.
Les conflits régionaux dus à la gouvernance foncière, notamment en Afrique centrale, étaient au centre des discussions jeudi à la cité de l'Union africaine à Addis Abeba. Selon les membres du panel, des mouvements migratoires s'observent dans certains pays de l'Afrique, notamment en RDC, et sont à l'origine de l'instabilité régionale. Ils recommandent, entre autres, aux dirigeants de s'approprier les instruments juridiques de l'Union africaine pour le règlement de ces litiges en vue d'accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange. Reportage d'Isaac Raymond depuis Addis Abeba.
Les pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale, dont la RDC, la République centrafricaine, le Tchad et le Mali, sont parmi ceux qui sont affectés par les conflits régionaux liés à la terre. C'est la conséquence, entre autres, des changements climatiques, de l'insécurité qui entraîne des mouvements de population en quête de terres arables, de l'eau, d'un environnement sécurisé. C'est le cas des Mororo, avec leurs troupeaux qui sont à cheval entre la RDC et la République centrafricaine. Ces derniers, dont certains sont munis d'armes à feu, font pression aux communautés locales et suscitent des tensions et des violences face à ces défis qui retardent la mise en œuvre de la zone de libre-échange en Afrique, les membres du panel demandent aux États de s'approprier et de vulgariser les instruments juridiques de l'Union africaine et de les harmoniser avec les lois nationales. Le professeur Paul Chawa du Cameroun.
Nous sommes là devant un sujet extrêmement important, une activité un peu négligée puisque ces conflits quelquefois dégénèrent et menacent la paix dans des régions entières.
Pour d'autres membres du panel, les États africains doivent également développer des mécanismes locaux, nationaux et régionaux de règlement de leurs litiges en vue de renforcer la cohésion régionale. Des Addis Abeba, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Tchad, le Conseil national de transition qui fait office de Parlement du Tchad a adopté hier jeudi 23 novembre la loi d'amnistie proposée par le gouvernement. Ce texte couvre tous les participants civils ou militaires déjà poursuivis ou non aux violences du 20 octobre 2022 qui ont fait 73 morts selon le gouvernement et au moins 218 selon la Ligue tchadienne des droits de l'homme. Issu de l'accord signé fin octobre à Kinshasa avec l'opposant succès Masra, il fait débat dans le pays et les défenseurs des droits humains s'inquiètent d'une forme d'impunité.
L'invité.
L'invité de ce journal, c'est Mamadou Mbalo. Il est le chargé des programmes de réforme foncière pour le compte de l'ONU Habitat en RDC, qui a fait deux exposés sur la politique foncière en RDC à la conférence sur la gouvernance foncière durable en Afrique qui se tient depuis mardi à Addis Abeba en Éthiopie. Il nous parle des avancées significatives en matière de réforme foncière en RDC malgré de nombreux défis à relever. Mamadou Mbalo s'entretient avec Isaac Raymond depuis Addis Abeba.
Nous nous retrouvons ici à Addis Abeba. Vous êtes basé en RDC. Par rapport à cet enjeu continental, quel est le degré ou bien le niveau d'application ou des efforts qui sont fournis en République démocratique du Congo?
Oui, il faut dire que la République démocratique du Congo, si on pouvait parler d'élève, est un bon élève au niveau de l'Union africaine sur les questions foncières parce que en 2009, quand l'Union africaine a adopté donc le cadre et ligne directrice, quand elle a fait ses déclarations sur les problèmes et enjeux fonciers, elle a invité les États à développer donc des politiques foncières. Dans la même lignée, la République démocratique du Congo s'est engagée depuis 2012 dans un processus de réforme foncière qui a abouti aujourd'hui à la production d'un document de politique foncière nationale après des efforts de presque 10 ans avec l'appui technique donc de l'ONU Habitat. Cette politique foncière qui a fait l'objet de consultations dans les 26 provinces a été officiellement adoptée par le gouvernement en avril 2022 comme une politique publique devant aujourd'hui garantir et guider la gouvernance foncière en République démocratique du Congo. Et dans la même lignée, le pays a entrepris la révision donc de la loi foncière de 1973 avec aussi le même degré d'engagement, d'inclusivité donc des populations que la politique foncière. En l'état actuel des choses, la politique foncière est au niveau du Parlement et attend donc d'être adopté pour pouvoir définitivement servir de renouveau dans le cadre de l'agenda foncier en République démocratique du Congo.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que la RDC a des leçons aussi à offrir au continent africain?
Exactement. Il y a plusieurs initiatives qui sont aujourd'hui en cours en République démocratique du Congo qui sont des initiatives intéressantes et à encourager.
Lesquelles, par exemple?
Parmi ces initiatives, on peut citer par exemple le processus donc que le pays a engagé à travers l'Institut national de la statistique sur la documentation des données foncières, des droits d'occupation foncière. Et ce processus, l'Institut national de statistiques est en train de le mener conjointement avec le réseau mondial sur les outils fonciers, GLTN, avec l'appui donc de l'ONU Habitat. Et on a vu aujourd'hui qu'à travers ce processus, l'Institut national a pu produire un rapport national sur l'état de l'administration ou de l'enregistrement donc des droits fonciers en République démocratique du Congo. Et ce rapport permet de voir qu'en l'état actuel des choses, il y a encore beaucoup à faire en termes de cartographie, en termes de documentation des droits fonciers pour pouvoir garantir la sécurité foncière. Mais plus important encore, je pense que la réforme foncière qui est en train donc de suivre son cours constitue également une expérience assez intéressante que la RDC peut vendre ailleurs dans la mesure où la politique foncière apporte une réponse adaptée liée donc à la cartographie, à la documentation et à l'enregistrement des droits fonciers des communautés locales pour justement éviter les conflits de chevauchement, les conflits de frontières entre les différentes communautés à la base.
Mais est-ce qu'il y a déjà des résultats de toutes ces actions qui sont entreprises auxquelles vous pouvez faire référence?
Oui, il y a des résultats palpables. Si on prend par exemple dans le cadre de la réforme foncière, les deux expériences pilotes sur lesquelles nous avons travaillé à travers donc la mise en place d'un registre foncier communautaire, nous pouvons voir à ce niveau qu'il y a des résultats satisfaisants. Par exemple, en Ituri, et plus particulièrement dans la circonscription foncière de Mambasa, à travers la mise en place d'un registre foncier communautaire, nous avons réussi à pouvoir cartographier plus de 340 parcelles donc appartenant à des communautés locales. Cette cartographie-là a abouti donc à la production de certificats d'occupation coutumière à l'échelle locale et aussi la mise en place de ce régime a permis d'identifier une pluralité de conflits fonciers qui ont été adressés donc par le comité foncier local que nous avons installé sur place. Dans le même ordre d'idée aussi, à Maïndombe, dans la circonscription foncière de Inongo. Nous avons fait des interventions dans ce sens liées à la mise en place d'un système d'information foncière que nous avons appelé registre foncier communautaire. Là aussi, en termes de résultats, nous pouvons voir que nous avons cartographié plus de 250 parcelles appartenant à des communautés. Cette cartographie-là doit aboutir donc à la production de documents d'occupation foncière pour éviter toute contestation liée à ces terres-là. Et en termes d'adresser aussi les conflits, ça nous a permis de cartographier une série de conflits fonciers, une soixantaine, dont la plupart ont été adressés.
Monsieur Mamadou, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Et c'est la fin de ce journal, supervisé et coordonné par Noël Aluzito, mis en onde par Alain Goyi et présenté par Fulbert Balolagui.